السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اس آیت کا ترجمہ ہے.
La traduction de ce verset est comme suit : Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah. Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Nous annonçons au monde que les préceptes de l'islam présentent la solution aux problèmes de ce monde. Et pour ce faire, nous présentons les préceptes du Saint-Coran. Lors de ma tournée au Canada, un journaliste m'a posé la question suivante : quelle est la solution que vous présentez aux problèmes contemporains ? Je lui ai répondu, vous, les gens de ce monde, ainsi que les grandes puissances, dans votre orgueil, vous annoncez que vous avez remué ciel et terre afin de résoudre les problèmes du monde, afin d'établir la paix et afin d'endiguer le terrorisme. Cependant, ces problèmes demeurent. Si cela diminue dans un endroit, une étincelle s'allume ailleurs. Si vous tentez de maîtriser la situation là-bas, les troubles éclatent dans le premier endroit. On a tout entrepris humainement pour mettre fin à ces troubles. On a tout fait pour mettre fin à ces troubles. Cependant, on n'a pas fait un seul effort. Il s'agit de résoudre ces problèmes à la lumière des préceptes de l'islam. Cette réponse les réduit au silence. Cependant, nous devons nous aussi nous rappeler que les pays musulmans se disent les porte-étendards de l'islam. Mais malheureusement, ils n'émettent pas en application le précepte qui a été révélé par Allah l'Exalté et ils n'atteignent pas l'objectif de l'islam et ils ne suivent pas non plus l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font pas des efforts en ce sens et c'est pour cette raison que les pays musulmans sont, d'entre tous les pays, les plus affectés par ces troubles. Peut-il avoir de plus grand malheur que cela? Jusqu'à présent, aucun journaliste ne m'a dit que les pays musulmans devraient se réformer en premier afin de servir d'exemple pratique de ces préceptes. Or, ils pourront poser cette question par la suite. Cette question sera soulevée. C'est pour cette raison que généralement, dans les discours que je prononce en présence des non-musulmans, je leur présente en premier la situation des musulmans et ensuite je présente à ces grandes puissances leur vrai visage. Et aux journalistes et dans mes interviews, j'annonce que le fait que les musulmans ne mettent pas ces préceptes en pratique est en soi un témoignage de la véridicité de l'islam et de la véridicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé clairement que les musulmans passeront par cet état, à savoir qu'ils vont oublier la réalité des préceptes de l'islam et ils accorderont préférence à leurs penchants égoïstes et à leurs intérêts personnels. Le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, apparaîtra quand la situation sera telle. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran, et le Saint-Coran a aussi mentionné les signes de son avènement. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait mention en détail. Ainsi, au lieu de s'inquiéter face à cette situation, un musulman Ahmadi doit se réjouir. Sous un certain angle, c'est pour lui un moment de joie. Il est soulagé du fait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a décrit la situation des musulmans. Il a décrit en particulier la situation des ulémas et ses prophéties qu'il a faites se sont réalisées. Nous sommes témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Et les musulmans non-ahmadis affirment à présent la même chose. Et ils commencent à s'élever contre leurs ulémas, même s'ils le font à demi-mot. Cependant, nous, les Ahmadis, nous sommes aussi ravis du fait que nous avons accompli la deuxième partie de la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons accepté l'envoyé de Dieu, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie et le Mahdi promis. Et la renaissance de l'islam a débuté par son entremise. Mais cela suffit-il pour que nous atteignions notre objectif? Chacun d'entre nous doit réfléchir à ce propos. Je mentionne souvent le verset cité plus tôt dans nombre de mes discours que je prononce à l'endroit des non-musulmans. Je leur informe que l'islam évoque dans ce verset la norme de justice et d'équité à respecter. Beaucoup en sont impressionnés et beaucoup en font mention dans leurs commentaires. Or, notre objectif n'est pas d'impressionner autrui d'un point de vue académique uniquement. Afin de faire progresser la mission du Messie promis l'Islam, nous allons devoir être des exemples pratiques des commandements du Saint-Coran. Nous ne détenons pas le pouvoir dans aucun pays où nous pourrons, au niveau de l'État, être des exemples de ces préceptes. Quand le temps viendra, Inch'Allah, nous devrons faire montre de ces exemples à des niveaux supérieurs. Or, nous devons, dès à présent, servir de modèle à cet effet au niveau de la Jamaat ainsi qu'au niveau de la société. Le monde pourra demander, certes, les rênes du pouvoir ne sont pas entre vos mains. Mais vous êtes une communauté organisée, vous êtes une Jamaat et vous affirmez obéir à une seule autorité. D'ailleurs, vous avez des liens économiques et sociétals avec les autres. Respectez-vous cette norme de justice et cette norme d'honnêteté dans vos affaires. Dans ce verset, Allah utilise le terme « Christ » dans un endroit au tout début de ce verset et il a mentionné le terme « Adl » ailleurs dans ce verset « Adl » qui signifie l'égalité, la justice absolue, de haute valeur morale, une impartialité absolue, être exempt de favoritisme et œuvrer sans subir d'influence. Chacun d'entre nous doit se demander s'il respecte ces conditions dans ses interactions. Afin de respecter cette norme, sommes-nous prêts à témoigner contre nous-mêmes? Afin de respecter cette norme, sommes-nous prêts à témoigner contre nos parents? Afin de respecter cette norme, sommes-nous prêts à témoigner contre nos proches parents? Les enfants sont les premiers qui tombent dans la catégorie des proches parents ici. Sommes-nous prêts à réprimer nos désirs afin de respecter cette norme? Pouvons-nous traduire tout cela dans la pratique? Il n'est point aisé de respecter cette norme. En notre temps, le serviteur dévoué du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait montre de cet exemple. Il y a un incident à cet effet. Le père du Messie premier l'Islam était un propriétaire terrien, il était un chef de la région de Qadian. Un différend familial les opposait à certains agriculteurs. Et le Messie premier l'Islam a témoigné en faveur de ces agriculteurs en disant la vérité, sans se soucier des pertes financières qu'aurait subies sa famille. Ces pauvres agriculteurs avaient demandé qu'on rende le verdict suite au témoignage du Messie premier l'Islam, et cela en dépit du fait qu'ils savaient très bien que le Messie premier l'Islam était propriétaire de ces terres et qu'il était partie prenante dans le procès. Ils l'ont cité comme témoin car ils savaient que son témoignage reposera sur la vérité et la justice. Et c'est ainsi que le Messie premier l'Islam a témoigné en leur faveur. Ainsi, le Messie premier l'Islam souhaitait que ses disciples soient respectueux de cette norme, car il souhaitait créer une jamaat qui appliquerait les préceptes du Coran, une jamaat dont les œuvres méritoires seront très élevées. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a demandé à ses disciples de se soumettre entièrement à l'autorité du Saint-Coran dans les 10 conditions de la Bayra. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah l'exalté affirme « Wala yajimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'adilu wa akrabu littaqwa » Le Messie premier l'Islam commente à ce sujet, c'est-à-dire que l'hostilité d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez équitable, car en cela réside la taqwa. Le Messie premier l'Islam ajoute, je le dis en vérité qu'il est aisé de traiter son ennemi avec courtoisie. Or, il est très difficile de protéger les droits de l'ennemi et d'être équitable lors des procès. Seuls les braves peuvent agir de la sorte. Beaucoup font montre d'affection à l'égard de leurs partenaires concurrents. Et ils énoncent des paroles mielleuses à leur endroit. Or, ils laissent les droits de ces derniers. Un frère aime son frère, mais il laisse ses droits en le trompant grâce au voile de l'amour. Le Messie premier l'Islam espérait que la norme respectée par les membres de sa jamaat serait très élevée et que leurs œuvres correspondront aux enseignements coraniques. Et qu'ils ne léseront pas les droits d'autrui et qu'ils ne seront pas injustes. S'ils sont habilités à rendre un jugement, eh bien, le Messie premier l'Islam souhaitait qu'ils se démarquent de tout favoritisme quand ils rendent leur verdict et qu'ils fassent preuve d'une justice absolue, même si leur décision portait atteinte à leurs intérêts, porte atteinte à ceux de leurs parents, de leurs proches ou de leurs enfants. Le Messie premier l'Islam souhaitait qu'ils atteignent les sommités de la justice. Quand nous en serons des exemples, nous pourrons annoncer au monde qu'aujourd'hui, nous nous sommes réformés et en nous réformant, nous sommes en train de mettre en pratique les préceptes de l'Islam et nous sommes prêts à traiter équitablement l'ennemi, et nous le traitons équitablement, et nous sommes prêts à donner de vrais témoignages, même si c'est contre nos intérêts, contre les intérêts de nos parents, de nos enfants ou de nos proches. Nous sommes en train de servir d'exemple dans ce domaine, car nous allons devoir guider le monde à l'avenir. Si nous n'en sommes pas des exemples, eh bien, nous allons nous écarter des commandements divins et nous allons violer nos engagements. Ainsi, tout Ahmadi, et en particulier tout titulaire de poste, doivent se demander jusqu'à quel point ils respectent leurs engagements afin d'être justes et équitables. Et jusqu'à quel point chacune de ces décisions est basée sur une justice qui est absolue. Lors de ma tournée au Canada, d'aucuns se plaignaient que certains titulaires de poste ou ceux qui ont certaines obligations au sein de la Jamaat, sans pour autant être des titulaires de poste, on se plaignait que ces personnes étaient injustes. Ces personnes n'étaient pas justes. Certains, en rendant un verdict, sont enclins au népotisme ou en sont coupables quand ils rendent un verdict. Certes, quand on règle un différend, il faut juger en faveur d'une partie et il faudra juger contre l'autre. Or, les deux parties concernées doivent être satisfaites qu'elles ont été entendues et que le médiateur a rendu son verdict en ayant eu recours à sa perspicacité après avoir tout entendu. La Qaza est un de ces départements qui interagit avec le public. C'est un département qui doit résoudre les conflits. C'est un département qui doit résoudre les différends. Ensuite, le département Umuriyama interagit aussi avec le public. Il en est de même du département Tarbiya jusqu'à un certain point. Cela concerne aussi la Islahi Committee, le comité visant à la réforme. Et des commissions d'enquête sont instituées dans certains cas. Ces dernières doivent, elles aussi, traiter avec le public et écouter les parties adverses. Ainsi, au moment de rendre leur verdict, chaque département doit user de toutes ses aptitudes et doit rendre son verdict après mûre réflexion et en ayant pris en compte les moindres aspects de l'affaire. Il faudra prier et implorer l'aide d'Allah afin d'arriver à un verdict qui est juste. Il est essentiel de prier avant de prendre sa décision. Certains disent que nous ne rendons pas notre verdict tant que nous ne ferons pas des prières nawafil. Mais d'autres rendent des verdicts sans réfléchir ou en raison de leur inclinaison personnelle. Le département du secrétaire général doit aussi traiter avec le public. Ceux qui travaillent dans le bureau du secrétaire général et le secrétaire général lui-même doivent respecter tous les membres de la communauté. Ils ne doivent pas faire montre de respect uniquement à l'égard de ces personnes qu'ils apprécient ou à l'égard de leurs amis et avoir un comportement négatif à l'égard de ceux qui leur sont étrangers ou à l'égard de ceux avec lesquels ils n'ont pas de bonnes relations. Et les responsables des autres départements doivent être attentifs à cet égard, ces départements qui sont en contact avec le public. Ces responsables doivent s'assurer que chaque bénévole, chaque travailleur dans leur département soit juste et équitable dans l'exercice de ses fonctions. Voilà les charges confiées aux responsables. Qu'on ait pris cet engagement verbalement ou pas avec le responsable, qu'on lui ait dit de promettre qu'il va promettre ceci, que je m'évertuerai à rendre justice à mon travail, qu'il ait pris cet engagement verbalement ou pas, le fait qu'il a accepté de rendre ce service au sein de la Jamaat est en soi un engagement, à savoir que je m'acquitterai de mes responsabilités en toute équité. Et c'est là un dépôt que l'on accepte uniquement pour la cause d'Allah. Tout croyant doit honorer ses engagements et il doit honorer ses dépôts et il doit s'acquitter de ses responsabilités. Tout comme Allah déclare dans le Saint-Coran, à savoir que les croyants sont ceux qui respectent leur engagement. Ceux qui œuvrent uniquement pour la cause d'Allah et ceux qui disent que nous sommes en train d'accomplir cette tâche uniquement pour la cause de Dieu, eh bien, ceux-là doivent être très vigilants. Ils doivent être beaucoup plus vigilants que les croyants ordinaires. Cela concerne en particulier ceux qui endossent certaines responsabilités. Je dois aussi expliquer ici que l'on ne doit pas croire que je m'adresse uniquement aux responsables du centre. Cela concerne aussi les présidents, cela concerne aussi les membres de leur comité. Ils doivent tous s'analyser et se demander s'ils sont en train de respecter leurs charges en toute équité. Sachez également que cela ne concerne pas uniquement le Canada. Je reçois des doléances à ce sujet de l'Allemagne, du Royaume-Uni et d'ailleurs. Ainsi, il est important de rectifier son comportement. En étant injuste, on ne respectera pas ses engagements et de surcroît, on sera coupable de malhonnêteté. D'ailleurs, Allah déclare qu'il n'aime pas les malhonnêtes. Dans ce cas, au lieu d'être les récipiendaires de récompenses divines, l'on va s'attirer la colère divine en agissant avec injustice ou en étant arrogant. Ainsi, au lieu de chercher des prétextes pour cacher ses erreurs et ses manquements, il faudra faire l'istighfar et il faudra essayer de se réformer. Ainsi donc, nos responsables doivent accomplir leur analyse de conscience. Est-ce qu'ils sont en train de respecter les principes énoncés par Dieu eu égard à la justice ou pas? Est-ce qu'ils sont en train de faire preuve d'équité dans leur travail ou pas? Est-ce qu'ils sont justes à l'égard de ceux avec qui ils interagissent ou pas? Être président, être secrétaire ou être amir n'a aucune importance en soi. L'on ne méritera pas le pardon divin en raison de ces postes. Cela n'est pas non plus une faveur accordée à Allah ou à sa Jamaat. Si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs en toute sincérité, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs en accord aux souhaits de Dieu, eh bien, tout cela ne sera d'aucun avantage. Ainsi donc, il faudra honorer ses engagements en toute sincérité. Il faudra respecter tous les préceptes de la justice lorsque nous sommes amenés à prendre des décisions. Lorsqu'on a pris une mauvaise décision à l'égard d'un différend ou d'un litige, il faudra admettre ses erreurs et corriger ses décisions. Il faudra rectifier son comportement et il ne faudra pas non plus oublier ce commandement divin, c'est-à-dire parler aux gens avec bonté et bienveillance, parler aux gens avec courtoisie. Comme je l'ai déclaré, dans chaque pays, les responsables doivent accomplir leur analyse de conscience. Je vous ai cité l'exemple du Canada où ce pays m'est venu à l'esprit car la Jamaat est très connue parmi les étrangers là-bas au Canada. Et après ma visite au Canada, la communauté s'est fait une grande renommée. Et les gens sont en train de nous observer de très près. C'est pour cela que nous allons devoir être des exemples dans chacune de nos affaires. Chacun de nos responsables en particulier et tout Ahmadi en général doivent être des modèles pour les autres. Là où l'on voit dans le monde des exemples de désordre, de chaos et d'injustice, eh bien, la Jamaat, quant à elle, doit être un exemple de justice et de respect des droits d'autrui. Grâce à cette renommée, les gens connaîtront la valeur de cette Jamaat. Et on va connaître que chaque Ahmadi est un modèle à suivre. Ainsi donc, en tant qu'Ahmadi, n'oubliez pas que cette responsabilité n'incombe pas uniquement au titulaire de poste au sein de la Jamaat. Chaque Ahmadi, à titre individuel, est un responsable. Il a la responsabilité d'être un modèle pour les autres dans ses relations. Il a pour responsabilité d'être un exemple de justice et de pousser à leur apogée ses qualités et ses excellences. Il doit faire preuve de neutralité dans ses relations avec les autres. Il doit être entièrement impartial dans ses relations avec les autres. Le témoignage d'un Ahmadi et sa déclaration doivent être des références en matière d'honnêteté et en matière de véridicité. Le monde doit annoncer que si un Ahmadi a témoigné, nous pourrons le mettre au défi, car ce témoignage est basé sur les hauts préceptes de la justice. Si nous agissons de la sorte, dans nos discours, dans nos propos ainsi que dans la transmission du message, nous serons considérés comme véridiques et sincères. Sinon, nous serons comme les autres. Tous les Ahmadis doivent se souvenir qu'en prêtant allégeance au Messie promis d'Islam, nous avons promis de nous prémunir de tout mal. En négligeant cet engagement et en ne le respectant pas sciemment, nous serons considérés comme malhonnêtes. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les signes d'un véritable croyant en déclarant que la foi et l'incroyance ne peuvent coexister dans le cœur d'une personne, ni la véridicité et le mensonge. La malhonnêteté et l'honnêteté ne peuvent non plus coexister dans le cœur d'une personne. Dans un autre hadith que tout responsable et tout Ahmadi doit avoir en tête, l'envoyé de Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que le croyant ne peut être déloyal à l'égard de trois choses. De ces trois choses suivantes. Premièrement, dans sa sincérité eu égard à une tâche accomplie pour la cause de Dieu. Deuxièmement, il ne peut être déloyal dans sa bienfaisance à l'égard des musulmans. Il est toujours bienveillant à l'égard des musulmans. Troisièmement, il ne peut être malhonnête dans sa relation avec la Jamaat des croyants. Comme je l'ai déclaré, Pour respecter ses engagements envers Allah, il faudra s'acquitter en toute intégrité et en toute sincérité de ses devoirs envers sa religion. De même, il est important que chaque personne respecte les droits des autres. Lorsque chacun d'entre nous, faisant preuve de justice, respectera les droits d'autrui, alors cette course à l'obtention de droits prendra fin. Les gens ne courront pas après leurs droits. Au contraire, tout le monde respectera les droits d'autrui. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné ceci. Il avait déclaré que c'est là une marque d'un musulman authentique. Chaque Ahmadi doit se rappeler que c'est le fait de rester attaché à la communauté des croyants qui fait de nous des musulmans authentiques. À ce jour, en ce monde, il n'y a qu'une seule jamaat, qu'une seule communauté qui est connue sous le nom de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est l'unique jamaat qui est connue dans le monde entier sous un seul nom. À part celle-ci, il n'y a pas d'autre communauté internationale qui est connue dans le monde entier sous un même nom. De ce fait, d'après les paroles du saint prophète Mohammed B.S.A.W., le fait de rester attaché à celle-ci, le fait de faire partie de son système, permet de devenir un musulman authentique. Un Ahmadi ne pourra jamais être assez reconnaissant pour avoir obtenu cette grâce. Et la vraie gratitude se manifeste à travers l'obéissance totale envers le système de la Jamaat et envers le califat. Qu'Allah permette à chaque Ahmadi d'être reconnaissant de cette manière et qu'il permette à chaque Ahmadi de faire preuve de justice. À chaque fois que leur témoignage sera requis, qu'il n'ait pas un recours à la malhonnêteté. Chaque responsable de la communauté doit prendre conscience de ses responsabilités et il doit remplir les missions et les services liés à son poste. Il doit remplir toutes ses responsabilités en faisant toujours preuve de justice. Ce bel enseignement doit également être transmis à nos générations et nous devons aussi agir en ce sens, afin que lorsque le moment sera venu, nous puissions établir une justice véritable dans le monde. La justice qui fut établie par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dont les exemples pratiques ont aussi montré à cette époque par le Messie promis de Salam, le serviteur sincère du saint prophète Mohammed B.S.A.W., le Messie premier d'Islam qui espérait aussi que ses fidèles en feront de même. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de dépouille de certaines personnes. La première prière funéraire sera celle d'Adnan Mohammed Kurdi Saheb, qui habitait à Alep en Syrie. Il a été enlevé en juin 2013 par une organisation terroriste syrienne. Et il fut martyrisé par la suite. Adnan Saheb est né en 1971 à Alep, en Syrie. En 2003, il a épousé une dame du nom de Tamazal Saheba. Le beau-père de Adnan, M. Yassine Sharif a embrassé la communauté Ahmadiyya en 2007 et grâce à son tablir, ses enfants et sa fille Tamazal ont aussi été convaincus de la véracité de l'Ahmadiyya et on a commencé à converser au sujet de l'Ahmadiyya dans la maison d'Adnan. Mais Adnan, le défunt, n'était pas éduqué, il suivait souvent les chefs religieux. Lorsque sa femme a prêté allégeance en 2010, il a dit à sa femme, après avoir été remonté par les chefs religieux, que si tu regardes la MTA à la maison ou si tu parles de l'Ahmadiyya, je vais demander le divorce. Lorsque son beau-père, Yassin Sharif, lui expliquait à la lumière du Saint-Coran de la Sunna, eh bien, il ne disait plus rien. Lorsqu'il partait de nouveau voir les mollahs, eh bien, il oubliait tout. Le beau-père du défunt dit qu'en 2011, je lisais le Saint-Coran chez lui avec sa femme, c'est-à-dire ma fille. Et entre-temps, Adnan est rentré du travail, et en nous voyant lire le Saint-Coran, il nous a dit « Continuez à lire, car je souhaite écouter votre exégèse ». Nous étions en train de lire ce verset de la sourate Bani Israël. « Iz yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura ». C'est-à-dire lorsque les injustes disent que vous suivez une personne qui a été ensorcelée. Le beau-père raconte, j'ai dit à Adnan que le croyant déclare que ceux qui prétendent que le saint prophète, paix soit sur lui, a été envoûté sont des injustes. Or, on constate que certains musulmans admettent que le saint prophète, paix soit sur lui, a été ensorcelé. Ceci est tout à fait faux aux yeux de la Jamaat Ahmadiyya, et aucune narration de ce genre n'est acceptable. Après avoir entendu ces faits, Adnan a pris son téléphone, comme à l'accoutumée, et il a appelé son mollah et a demandé si le saint prophète a été réellement envoûté. Le mollah a dit « Oui, cela est vrai, cela a été mentionné dans Bukhari ». Adnan lui a répondu « Je suis un homme très simple et je suis un pécheur. Je sais que certains de mes proches ont tenté de m'ensorceler, mais cela n'a pas eu d'effet sur moi. Or, le saint prophète, paix soit sur lui, était le prophète le plus proche de Dieu et le prophète le plus aimé par Dieu. Comment est-ce possible pour moi de croire que certains ont réussi à l'ensorceler ?» Il a raccroché le téléphone. Sa femme raconte que quelques jours après cet incident, Adnan réfléchissait beaucoup. Et un jour, il m'a dit « Je voulais avoir une femme pieuse possédant de bonnes qualités morales. Et depuis que tu as embrassé l'Ahmadiyya, j'ai vu qu'il y a eu nombre de changements pieux en toi. Ton comportement à l'endroit de ma famille et de mes enfants est meilleur. » Tout cela est de la part de Dieu. C'est pourquoi j'accepte moi aussi l'Ahmadiyya. Ainsi, il a fait la Bayra. La femme du martyr déclare « Certains individus appartenant à une organisation extrémiste énonçaient des propos très dégradants à l'endroit de la communauté Ahmadiyya. Et cela me faisait beaucoup mal. Lorsque je racontais cela à Adnan, il me disait de les laisser faire et de ne jamais débattre avec eux. Notre travail est uniquement de prier pour eux. » Ensuite, le 20 juin 2013, certains individus de cette organisation extrémiste ont kidnappé Adnan et deux mois après, ils l'ont martyrisé en lui tirant une balle. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il avait entre 42 et 43 ans au moment de sa mort. Sa femme relate, même si je rêvais souvent du martyr de mon mari, je n'avais reçu aucune information à ce sujet. Un jour, un opposant de la communauté de notre ville m'a demandé si j'attendais encore mon mari. Il m'a dit qu'il ne viendra plus car il a été tué. Nous lui avons beau expliquer de quitter l'Ahmadiyya, mais il répondait toujours qu'il ne délaisserait jamais l'Ahmadiyya, même si on lui coupait la tête. Donc, il a été martyrisé depuis bien longtemps, mais étant donné qu'ils viennent de le savoir à présent, les prières funéraires seront faites aujourd'hui. La femme du martyr écrit que le martyr était pieux, constant dans ses prières. Il essaie toujours d'être en état d'ablution. Il était un mari attentionné, compatissant et un père aimable. Il se souciait toujours de l'éducation de ses enfants. Il était toujours prêt à servir les autres et respecter les liens de parenté. Il était constant dans les sacrifices financiers. Il essayait toujours de devancer les autres dans ce domaine. Son beau-père raconte qu'après son acceptation de l'Ahmadiyya, Adnan a engendré en lui une sincérité remarquable. Et il avait offert son fourgon aux Ahmadis. Le vendredi, il allait chercher les Ahmadis de différents endroits pour les ramener au centre de prière. Et il les retournait chez eux. De même, pour les réunions Lajna, il transportait les femmes chez la présidente et les ramener chez elles. Les Ahmadis essayaient de le payer, mais ils refusaient de prendre l'argent. Si quelqu'un insistait, eh bien, ils prenaient seulement la somme dépensée pour l'essence. Ils contribuaient énormément dans les contributions financières et ils disaient souvent que grâce à ces contributions, Dieu a béni son travail. L'exemple qu'il donnait était qu'il avait acheté ce fourgon avec une autre personne et il le conduisait. Mais peu de temps après, Dieu lui a permis de mettre fin à ce partenariat et il a acheté lui-même ce fourgon. Un autre de ses proches raconte que l'attribut de la bonté envers les proches était une des qualités éminentes du défunt. Elle raconte que lorsque les troubles se sont aggravés et que la guerre a débuté, eh bien la situation était très difficile dans notre ville. Il n'y avait plus de pain. Et s'il y avait du pain, il coûtait très cher. Adnan était au service de ses proches. Il allait chercher le pain des lieux très éloignés pour nous en apporter. Le martyr laisse derrière lui une femme et 5 enfants. Il avait 2 filles de sa première épouse qui est décédée et il a eu 2 garçons et 1 fille de sa 2e épouse. Par la grâce de Dieu, ils sont tous au Canada. La 2e prière funéraire est celle de Mme Bashir Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Mansour Ahmad Chima, darwish de Kadian. Elle est décédée après une courte maladie le 7 novembre 2016 à l'âge de 93 ans. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Elle est née au Pakistan en 1923. Le Pakistan n'existait pas encore à l'époque, c'était plutôt en Inde et cette partie se trouve à présent au Pakistan. Elle est donc née en Inde. Elle s'est mariée à Chaudhry Mansour Chima en 1944. En 1947, lorsque Chima Saheb est venu à Kadian pour dédier sa vie pour la protection du centre, eh bien, la défunte est venue rejoindre son mari par la suite en 1952 à Kadian. Elle aimait beaucoup Kadian. Et après le décès de son mari, elle a vécu là-bas pendant 36 ans avec patience et sincérité par la grâce d'Allah. C'était une femme très pieuse qui avait un grand amour pour l'humanité. Personne ne retournait les mains vides chez elle. Hormis la dernière année, toute sa vie, elle complétait tous les jeûnes du mois du Ramadan et elle terminait plus d'une fois la lecture du Saint-Coran durant ce mois béni. Elle conseillait aussi ses enfants à être régulés dans les prières en congrégation, dans la lecture du Saint-Coran et à vouer une obéissance indéfectible au califat et à la Nizam et Jamaat. Elle était très pieuse, priait beaucoup, elle était patiente, reconnaissante, elle plaçait sa confiance en Allah. Elle était honnête dans ses propos, se souciait de l'éducation de ses enfants. C'était une dame reconnaissante, emplie d'un sens de l'honneur et bienfaisante. Elle recevait des révélations et des visions. Elle a marié ses enfants uniquement pour la cause religieuse. Elle était Moussia et elle laisse derrière elle 3 filles et 5 fils. 3 de ses fils sont missionnaires. Tahir Chima, l'un des fils, enseigne à la Jamia Ahmadiyya. Mubarak Ahmad Chima, un autre de ses fils, est responsable du bureau supérieur et secrétaire de la Shura en Inde. Qu'Allah exalte le rang de la défunte. La 3e prière funéraire en l'absence de la dépouille est celle de Rana Mubarak Ahmad, qui était originaire de Lahore et qui s'était établi ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 5 novembre 2016 à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père, Rana Mohamed Yaqub, avait accepté l'Ahmadiyya grâce à un rêve. Par la suite, sa famille l'a âprement persécuté et il a dû quitter sa maison. Après cela, sa mère a aussi accepté l'Ahmadiyya. Le défunt était toujours le premier à offrir ses services pour la Jamaat. Dès sa tendre enfance, depuis le début, il était très sincère envers le califat. Il était très sincère envers la Jamaat. Il a commencé à servir la Jamaat en 1967 et n'a cessé de le faire jusqu'à la fin de sa vie. Il était Qaïd Majlis et secrétaire mal de Lahore et de Bahawalpur. De plus, il était aussi Sadr Jamaat de Allama Iqbal Town de Lahore pendant 30 ans et il a servi comme secrétaire mal, secrétaire Tahrik Jadid et secrétaire Waqf Jadid. Après sa retraite, il a dédié sa vie pour la cause de la communauté. Il était aussi représentant du journal Al-Fazal et il était très aimable dans ses propos. Il priait abondamment et il payait ses contributions régulièrement. Il avait beaucoup d'affection pour le califat. Il était très sincère. Il écrivait aussi de très bons articles pour le journal Al-Fazal. Ses articles étaient très bons. Et tant qu'il était au Pakistan, il m'écrivait régulièrement et il était le premier à m'informer de la situation de là-bas si quelqu'un était malade. Il conseillait aussi aux autres de prier pour autrui. Il laisse derrière lui sa femme, une fille et trois fils et plein de petits-enfants. Ils sont tous ici. Qu'Allah rehausse son rang dans l'au-delà. De même qu'Allah rehausse le rang du martyr et qu'il protège aussi ses enfants. Il réside à présent au Canada. Ils sont partis de la Syrie. Qu'Allah les protège de l'environnement de ce pays et qu'Allah fasse qu'ils puissent perdurer dans la génération du martyr les nobles raisons pour lesquelles il a accepté l'Ahmadiyya.